Rendu sur le mystère du royaume des cieux dans Matthieu 13. Puis, on va peut-être lire, on ne lira pas tout le chapitre, c'est quand même assez long, mais on va lire les versets 10 à 17, puis les versets 34 à 35. On cherche maintenant au mystère, parce qu'on parle des mystères du Nouveau Testament. Donc, quand la parole de Dieu dit que c'est un mystère, on comprend que ça veut dire que c'est quelque chose qu'on n'aurait pas pu comprendre de nous-mêmes, mais quand le Seigneur l'explique, c'est parce qu'il veut qu'on comprenne. Il veut nous faire comprendre. Il nous révèle des choses quand même précieuses, des choses qui étaient cachées depuis la fondation du monde, surtout dans ce chapitre-là ici qui nous dit ça. Il révèle des choses qui sont grandes, mais il ne les révèle pas à tous. Il révèle à ceux qui sont en contact avec lui. Puis c'est ça qu'on voit, ce qu'on va lire à partir du verset 10, dans Matthieu 13, à partir du verset 10. Après qu'il avait donné la parabole du semeur et des terrains, il dit, les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères, donc on a notre mot ici, mystère, les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe, vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible, ils ont endurci leur oreille, ils ont fermé leurs yeux. De peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur et qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Puis là, il leur explique, il dit, vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Puis là, il l'explique à eux en particulier. Donc, dans les versets, on va lire maintenant les versets 34 et 35. Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole. Il ne lui parlait point sans parabole, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. J'ouvrirai ma bouche en parabole. Je publierai des choses cachées depuis la création du monde. Puis, on va regarder un peu ces mystères-là. On avait commencé la semaine passée en disant que les mystères ici du royaume des cieux, c'est une série de sept paraboles dans lesquelles le Seigneur dévoile la forme que prend maintenant le royaume dans l'intérim. Parce que là, le Seigneur est venu se présenter, puis on va regarder ce soir un peu comment le Seigneur s'est présenté dans l'évangile de Matthieu, puis comment la réaction du peuple, parce qu'il dit bien, ils ont endurci leur cœur, ils ont fermé leurs yeux pour ne point voir. Donc, c'est eux qui étaient responsables de l'avoir fait. Puis, le Seigneur va révéler maintenant dans ces sept paraboles-là la forme que va prendre le royaume dans cet intervalle. Puis là, c'est vraiment un moment où le Seigneur révèle un intervalle entre ces deux venues, comment ça va se passer entre les deux venues du Seigneur quand il est venu quand il a dit qu'il n'était pas venu pour juger, mais pour sauver. La première fois, en mourant sur la croix, il est venu pourvoir un moyen de salut pour les gens. Ensuite, il revient la deuxième fois, mais cette fois-là pour juger. Mais là, il nous montre comment ça va se passer. Il révèle à ses disciples comment ça va se passer. Donc, les disciples, on sait qu'on voit toujours dans les évangiles comment les Juifs et même les disciples avaient en vue, ils pensaient toujours au royaume parce qu'il avait été prophétiser que Dieu leur donnerait le royaume que David avait eu, mais d'une façon plus grande encore, dans le plus grand fils de David, qui est leur Messie, le Seigneur Jésus-Christ. Puis le Seigneur avait dit, on avait dit dans Actes 1-7, en Actes 1-6, alors les apôtres réunis lui dirent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Donc, il avait en vue le royaume. Puis le Seigneur leur a répondu dans le verset 7, il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. On avait dit que les temps et les moments, ça concerne la tribulation et le jugement. Dans Actes 1-8, là, il leur avait dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Puis là, on voit qu'il les détourne du royaume, parce que le royaume ne vient pas à ce moment-là, mais c'est l'intérim qui vient ici, l'intervalle qui va, qui explique c'est quoi. Ben, il recevait la puissance de l'Esprit pour aller donner le témoignage de l'Évangile partout, en partant de Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. Puis dans le verset 9 de Acte 1, il avait dit, après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient et une nuée le dérobait à leurs yeux. Donc il est monté au ciel, puis il y a les anges qui sont venus, qui leur ont dit, pourquoi vous continuez à regarder au ciel ce même Jésus que vous avez vu monter au ciel pour revenir de la même manière? Mais quand on regarde l'évangile de Matthieu, on avait dit que le chapitre 13, c'est un pivot, là, vraiment, c'est là que les choses changent. Parce que là, maintenant, le royaume prend une forme différente dans l'intérim. C'est comme s'il est reporté, mais dans le plan de Dieu, c'était ce qui devait arriver. Donc, il est reporté plus tard, après ils vont partir de Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre avec la puissance de cet esprit pour rendre témoignage de l'Évangile. Donc, on voit que depuis le début de Matthieu, dans le chapitre 1, on voit c'est le roi qui se présente. Le Seigneur, il avait dit que le royaume de Dieu ne vient pas de façon à frapper le regard, parce que le Seigneur Jésus, le roi, était au milieu d'eux. Donc, le royaume était venu vers eux, dans la personne du roi qui s'était présenté à eux. Puis, dans le chapitre 1, on voit une progression dans l'évangile de Matthieu. Dans le chapitre 1, on a la généalogie du Seigneur Jésus-Christ. Parce que l'évangile de Matthieu, c'est l'évangile du royaume. Le Seigneur Jésus est présenté comme le roi. Donc, c'est normal qu'on commence avec la généalogie pour vraiment démontrer que son pédigré était il était vraiment le descendant de David, parce que c'était le fils de David. Donc, la généalogie du fils de David, on a mentionné sa naissance virginale, qui était très importante, parce que s'il est de la descendance de David, on sait que quand Jéconias, qui était un fils de David, qui était le dernier roi sur le trône de David, il avait reçu, lui, une malédiction à cause de son péché. Il s'avait détourné du Seigneur. Il avait dit que cet homme-là serait privé d'enfant, puis qu'il n'y aurait jamais quelqu'un de sa postérité qui s'asseoirait sur le trône. Donc là, on voyait que la ligne était brisée. Mais le Seigneur Jésus, lui, étant de la lignée de David, mais par Marie, parce que Joseph était son père adoptif, il échappe à la malédiction qui avait été prononcée sur la lignée de David. Donc, ça devenait impossible qu'un roi, un fils de David, s'assoie sur le trône de David. C'est ça le royaume. C'est que le plus grand fils de David vient installer un royaume sur le trône de David, son père. Mais c'est la naissance virginale qui fait en sorte que le Seigneur, c'est comme s'il faisait en sorte que ça devient impossible d'accomplir les choses sinon par sa sagesse infiniment variée. C'est en amenant un fils de David, mais c'est pas du fait qu'il était né d'une vierge. Parce que Marie était aussi descendante de David, mais pas à travers la lignée royale, à travers Nathan. C'est là que Marie, elle, on voit que sa lignée vient de Nathan. Puis Joseph, lui, était de la lignée des rois. Mais vu qu'il n'était pas le vrai père du Seigneur Jésus, c'est son père adoptif, le Seigneur Jésus échappait à la malédiction prononcée sur les fils de Jéconias. Le chapitre 2 de Matthieu nous présente, c'est le message des étoiles. Les étoiles qui rendent témoignage aux mages qui venaient de l'Orient que le roi des Juifs était né à Bethléem. Puis ils ont suivi l'étoile et les étoiles ont rendu témoignage que le roi des Juifs était né à Jérusalem, à Bethléem, excusez-moi. Mais ça a suscité la haine de Hérode parce que Hérode était le roi des Juifs à ce moment-là, mais il était roi des Juifs, il venait d'Édom, il venait pas des Juifs, il venait d'Édom qui est Ésaü. Donc, mais lui avait été placé roi des Juifs par Rome. Puis on sait que c'était un homme qui était sans scrupules. Puis lui, ben, quand quelqu'un lui faisait compétition, eh bien, il les tuait. Puis là, c'est ça, il voulait tuer de celui qui était né, les mages qui avaient dit que le roi des Juifs était né. Ils ont suivi l'étoile, ils lui avaient demandé qu'il vienne lui donner rapport pour qu'il puisse aller aussi l'adorer, mais son but c'était d'aller tuer. Puis vu que les mages ont été avertis de retourner par un autre, mais ils n'ont pas retourné vers Hérode, là il a fait tuer tous les enfants pour accomplir la prophétie que Rachel pleure ses enfants. Donc il avait fait tuer des enfants de 2 ans et moins pour essayer de tuer le roi des Juifs pour qu'il ne vienne pas faire compétition avec lui, pour pas perdre sa position de roi des Juifs. Mais le Seigneur a été épargné parce qu'il était envoyé en Égypte. Puis c'est comme ça que, encore là, pour accomplir toujours des prophéties, j'appellerai mon fils hors d'Égypte. Puis il sera appelé Nazaréen. Donc il est allé à Nazareth après ça pour être élevé. Dans chapitre 3, on voit que c'est la préparation du peuple. Donc la généalogie dans chapitre 1, le message des étoiles pour démontrer qu'il était le roi des Juifs né à Bethléem, l'endroit où le Messie devait naître. Mais dans le chapitre 3, c'est la préparation du peuple à recevoir leur Messie, à recevoir le royaume. C'est la venue du roi, mais pour que le roi vienne, il fallait qu'ils se repentent de leurs péchés. Puis c'est Jean-Baptiste qui était envoyé. Jean-Baptiste était envoyé pour annoncer la venue du roi, du Messie. C'est ce qu'il a fait. Puis il appelait le peuple à la repentance par le baptême. Il se faisait baptiser pour s'identifier avec un peuple repentant qui avait le cœur disposé à recevoir le Messie. Donc, ça, c'est un moment vraiment important parce que si le peuple s'était vraiment, si les pharisiens, les scribes s'étaient vraiment repentis au message de Jean, ils auraient reconnu Seigneur Jésus. Mais parce ils ont fait semblant, puis Jean leur disait, ne prétendez pas, il les appelait race de vipères, ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Ça veut dire qu'ils ne se repentaient pas, ça veut dire qu'ils pensaient correct. Et on a Abraham pour père, on est correct. Mais il dit, je vous le dis, de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Mais vu qu'ils ne se sont pas repentis, vu qu'ils n'ont pas reconnu leur faute au baptême de Jean-Baptiste, ben, ils n'ont pas reconnu le Seigneur Jésus. C'est pour ça que le Seigneur Jésus, il dit, ils ont endurci leur cœur, ils ont fermé leurs yeux. C'est eux qui ont endurci leur cœur, c'est eux qui ont fermé leurs yeux, puis ils n'ont pas pu voir. Puis c'est pour ça que le Seigneur leur parlait en parabole, afin qu'ils ne puissent pas comprendre, parce qu'ils n'étaient pas disposés. Siméon, lui qui était disposé, l'a reconnu avant tous ces signes-là. Quand il était né, du fait qu'il était né, il l'a pris dans ses bras, puis il savait qu'il était le Christ de Dieu. Puis il a dit, maintenant tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix parce que mes yeux ont vu ton salut. Puis il a dit des choses de lui qu'il avait par révélation. Mais dans Matthieu 11, 14, il dit, le Seigneur dit, et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. Donc le témoignage que le Seigneur rend à Jean-Baptiste, il dit, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir pour annoncer la venue du roi. Donc, puis ensuite, au chapitre 3, on voit aussi le baptême du Seigneur Jésus, pas un baptême de croyant, mais un baptême de repentance, le baptême de Jean. Puis Jean s'est opposé à ce que le Seigneur soit baptisé par lui. Il dit, c'est moi qui devrais être baptisé par toi. Puis le Seigneur a dit, il faut accomplir ce qui est juste. Mais déjà là, c'est encore un signe qu'il était le roi. Parce que quand le Seigneur Jésus s'est fait baptiser dans les eaux du Jourdain, il est arrivé quelque chose qui n'était pas arrivé à aucun autre. Tous ceux qui se sont fait baptiser, qui se reconnaissaient, ils reconnaissaient leur faute, qui se repentaient, eh bien, oui, avec justesse, ils devaient se repentir. Mais le Seigneur Jésus n'avait rien à se repentir. Puis, quand il s'est fait baptiser, c'était une identification avec le peuple. Puis, la voix qui est venue du ciel, le Saint-Esprit qui est venu sur lui sous la forme d'une colombe, puis la voix. C'était pas arrivé à personne d'autre que la voix vienne du ciel pour dire, celui-ci est mon fils bien-aimé à qui j'ai mis toute mon affection. Donc, il avait pas besoin de se repentir. Puis là, le Père donnait témoignage du Seigneur Jésus. Puis ça, c'était vraiment important. Puis Jean avait été averti que c'est celui sur qui descendrait l'Esprit, c'est lui qui allait baptiser du Saint-Esprit. Puis Jean, il l'a vu. Il a rendu témoignage qu'il était vraiment le Messie qui devait venir. Mais dans le chapitre 4 de Matthieu, maintenant, on voit, c'est la tentation du Seigneur Jésus au désert. C'est là qu'il était 40 jours et 40 nuits sans manger ni boire. Puis il a été tenté par Satan au désert. Il a été mis à l'épreuve. Il a été mis à l'épreuve pas pour montrer son innocence, pour montrer son impeccabilité. Puis il y a une différence entre l'innocence et l'impeccabilité. L'impeccabilité, c'est que non seulement il était sans péché, mais c'est impossible qu'il pêche. Adam, avant d'avoir péché, était innocent. Mais il était pas, ça ne voulait pas dire qu'il ne pouvait pas pécher. La preuve, c'est que Adam a péché. Il a perdu son innocence, il est devenu coupable. Mais le Seigneur Jésus, sa mise à l'épreuve, ce n'était pas pour voir s'il allait pécher, mais c'était pour montrer qu'il n'allait pas pécher, qu'il était impeccable. Cette seule chose qui naîtrait de toi était dit, il serait appelé le Fils de Dieu parce qu'il était conçu du Saint-Esprit, il était Dieu lui-même manifesté dans la chair. C'était impossible que Dieu pêche. Donc, quand il a été tenté, c'est un peu comme un pont qui est garanti pour 30 tonnes. Si on embarque 30 tonnes dessus, ce n'est pas pour le faire tomber, mais c'est pour montrer qu'il va résister. C'est pour montrer qu'il est capable de prendre les 30 tonnes. On met les 30 tonnes dessus, puis le pont va résister. C'était comme ça, la tentation du Seigneur Jésus. Puis il y a des gens qui vont dire, mais si c'est impossible pour lui de pécher, donc ce n'était pas une vraie tentation. Mais c'était une vraie tentation. Mais le Seigneur Jésus, il a dit, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. La tentation de l'extérieur était la même que nous, mais sauf que pour nous, il y a notre nature de péché qui répond à la tentation. Puis le Seigneur Jésus, lui, c'est comme il avait été dit, cette sainte chose qui naîtra de toi sera appelée Fils de Dieu. Il était conçu du Saint-Esprit, puis lui n'avait rien qui répondait à la tentation. Donc, il était impeccable, puis le Seigneur Jésus l'a démontré, puis tout ça, c'est des preuves que c'était le roi, jusqu'à présent. Dans les chapitres 5 et 7 de Matthieu, on voit, c'est le sermon sur la montagne. Puis le sermon sur la montagne, c'est quoi? Mais c'est la réglementation du royaume. Donc, toutes les choses qu'il dit là, c'est les règles du royaume, c'est le fonctionnement du royaume qu'il décrit devant eux. Dans les chapitres 8 à 10 de Matthieu, ben là, c'est les signes qui démontrent son autorité sur les effets du péché et qui démontrent son autorité. Les miracles qu'il accomplit, là, ça démontrait que c'était vraiment. Puis là, Dieu avait dit dans Ésaïe qu'il viendrait lui-même pour les sauver. Et lorsqu'il viendrait pour les sauver, les aveugles voiraient, les boiteux marcheraient, puis toutes les choses que les signes que le Seigneur Jésus a accomplis. C'est pour ça qu'il y a des gens qui pensent qu'on peut accomplir ces signes-là n'importe quand. Mais ces signes-là étaient pour authentifier le fait que le Seigneur Jésus-Christ était le Messie qui devait venir. Pour accomplir dans les prophéties, il était dit que les aveugles voiraient, les boiteux marcheraient. Puis Jean le Baptiste, quand il a demandé au Seigneur d'envoyer ses disciples pour voir, es-tu celui qui devait venir ou devons-nous en attendre un autre? Puis le Seigneur, à ce moment-là, a fait des guérisons. Puis il a dit à ses disciples, allez rapporter à Jean ce que vous avez vu. Les aveugles voient, les boiteux marchent. Puis là, il citait Ésaïe. Quand Ésaïe a dit que c'est Dieu lui-même qui viendrait pour les sauver, puis quand il viendrait, ces signes-là s'accompliraient. Donc, les signes avaient été annoncés d'avance. Ils ont été accomplis par le Seigneur Jésus pour démontrer que c'était vraiment Dieu qui était venu, leur Messie, pour pouvoir les délivrer, non seulement de la tutelle de Rome, mais aussi de leurs péchés, les délivrer pour qu'ils puissent entrer dans son royaume. Mais quand il a fait tous ces signes-là, puis ben, on voit aussi qu'il a envoyé ses disciples pour proclamer l'évangile du royaume. Il a envoyé ses disciples, puis ses disciples aussi, il y avait des pouvoirs qui leur étaient donnés pour démontrer que leur message venait vraiment de Dieu. Nicodème est celui qui a reconnu ces choses-là, parce que Nicodème, il lui a dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire les choses que tu fais si Dieu n'est avec lui. Mais il l'a appelé, nous savons que tu es un docteur. Donc, il n'a pas demandé, lui, les miracles, là, il y en avait eu, les miracles avaient fait son effet avec lui. Il avait compris que c'était vraiment un docteur qui venait de Dieu. Fait qu'est-ce qu'il voulait dire? Il voulait dire, maintenant, donne-nous l'enseignement. Si toi, tu viens de Dieu, on veut entendre ton enseignement. Tu es un docteur venu de Dieu. Les miracles m'ont convaincu. Maintenant, ce n'est plus les miracles que je veux. Je veux l'enseignement. Puis le Seigneur Jésus l'a étonné beaucoup en lui disant, il n'a pas parlé de miracles. Là, maintenant, les miracles avaient fait son effet sur lui. Puis le Seigneur Jésus, il dit, ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Puis là, le Seigneur lui parle de la nouvelle naissance. Puis Nicodème dit, mais comment cela peut-il se faire? Comment moi qui suis vieux, je peux rentrer dans le sein de ma mère puis naître de nouveau? Puis le Seigneur, il dit, tu es le docteur d'Israël, puis tu ne sais pas ces choses. Fait qu'il l'a amené au point de réaliser, Nicodème, tu as des choses à apprendre. Puis Nicodème il a appris ces choses-là. Donc, on voit ici que c'était l'évangile du royaume qui était les signes, les miracles démontraient qu'il était vraiment Dieu manifesté dans la chair, le Messie promis qui était venu, Dieu lui-même qui viendrait puis qui les délivrerait de leur maladie, toutes ces choses-là. Puis le Seigneur, il a fait la confirmation à Jean aussi dans le chapitre 11, là. Dans le chapitre 11, le Seigneur fait l'éloge de Jean-Baptiste, puis de son message qui n'a pas été reçu. Puis il fait la confirmation, c'est lui l'Élie qui devait venir, de son message qui n'a pas été reçu. Puis les reproches du Seigneur, maintenant dans le chapitre 11, il y a des reproches que le Seigneur fait aux villes qui n'ont pas reçu le message. Puis il leur dit que si Sodome et Gomorrhe avaient vu ces choses-là, ils se seraient repentis, puis que les autres, ils seraient plus responsables au jour du jugement parce qu'ils ont eu plus, puis même aussi les signes que le Seigneur avait donnés jusqu'à ce point-là. On a vu la progression des signes, des preuves que le Seigneur Jésus était vraiment le Messie qui devait venir, c'était lui qui était là, puis ils n'ont pas voulu croire. Donc le Seigneur leur a fait des reproches. Puis à la fin du chapitre 11, dans les versets 28 à 30, là, le Seigneur maintenant se tourne plus vers le peuple, il se tourne vers des individus. Puis c'est là qu'il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Donc le Seigneur ici, il se tourne, le peuple rejette, le Seigneur se tourne vers les individus. Puis on voit que le Seigneur, à un moment donné, quand il faisait des miracles, là, il les sortait de la ville, puis il accomplissait les miracles pour les individus. Mais les autres avaient refusé les signes. Donc, au chapitre 12, on voit que devant l'évidence, on voit comment la progression, là, ça a culminé pour démontrer que le Seigneur a donné toutes les preuves qu'il était le Messie qui devait venir. Puis devant l'évidence, les pharisiens, leur réponse à eux, ça a été au verset 14 du chapitre 12, ils se sont, qu'est-ce qu'ils ont dit au verset 14? Ils ont dit, les pharisiens sortirent et ils se consultèrent sur les moyens de le faire périr. Et vous, là, on voit vraiment, là, c'est le rejet du Seigneur Jésus-Christ. Ils se consultent sur le moyen de faire périr. Puis au verset 22, le Seigneur guérit un démoniaque. Puis quand il guérit un démoniaque, les pharisiens attribuent la puissance du Saint-Esprit à Satan. Et vous, au verset 24, il dit, les pharisiens ayant entendu cela dire, cet homme ne chasse les démons que par Beelzébul, prince des démons. Donc là, il attribue la puissance du Saint-Esprit, puis le Seigneur leur parle à ce moment-là du blasphème contre le Saint-Esprit. Au verset 31, il dit, c'est pourquoi je vous dis, tout péché, tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Donc maintenant, le Seigneur, il montre que ce n'était pas juste lui qui agissait, mais il agissait par la puissance du Saint-Esprit, puis cette puissance-là que lui a utilisée pour guérir un démoniaque qui vraiment était un type de la nation. Ce démoniaque-là, qui était aveugle, puis était muet, c'était, on voit ici, un petit peu, au verset 22, alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule étonnée disait, n'est-ce point là le fils de David? Voyez-vous, ça c'était l'évidence, là, qu'il était le fils de David. Mais eux, ils ont dit, c'est par la puissance de Beelzébul. Donc, ils ont attribué la puissance qui était. Le Seigneur, il leur a dit déjà, hein, il dit, pour quelle œuvre voulez-vous me lapider? Puis les œuvres, il dit, si vous ne croyez pas, croyez au moins à cause des œuvres. Parce que les œuvres que je fais, c'est les œuvres, c'est le Père qui les fait. Les paroles que je dis, c'est les paroles du Père. Mais il attribuait la puissance du Saint-Esprit, il attribuait à Satan. C'est là que le Seigneur leur parle du blasphème contre le Saint-Esprit. C'est dit, si vous parlez contre le Fils de l'homme, ça va vous être pardonné, mais si vous parlez contre le Saint-Esprit, ça ne vous sera pas pardonné. Donc, c'était vraiment un refus de la lumière qui leur était apportée. C'était le refus de la puissance de Dieu qui était avec le Seigneur Jésus. Puis, eux, ils lui demandent un miracle. Ils demandent au Seigneur un miracle. Il dit, attendez un petit peu, il dit, il leur parle, puis, grâce de Vipin. Alors, quelques-uns, verset 38. Alors, quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. Ils ont eu toutes les preuves, ils ont eu tout ce qui était des signes qui étaient donnés pour leur montrer clairement, mais ils ont endurci leur cœur, ils ont fermé leurs oreilles, puis ils demandent un autre miracle. Ils disent, nous voudrions te voir faire un miracle. Il leur répondit, une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Et là, on sait c'est quoi ce miracle-là. Ben, c'est que le Seigneur Jésus, comme il avait annoncé qu'il devait mourir, qu'il allait être enseveli, qu'il allait passer 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre et qu'il ressusciterait le troisième jour, selon les Écritures, comme Jonas a été un signe pour les Ninivites. Et là, le Seigneur Jésus est un signe pour eux autres aussi, parce qu'il allait passer. Puis ça, ce miracle-là leur a été donné, encore par la grâce de Dieu, parce qu'ils ont mis une garde, parce qu'il avait dit à Pilate, mets une garde, parce que de peur que ses disciples le volent de lui, puis qu'ils nous disent qu'il serait ressuscité, cette imposture-là serait plus grande que la première. Et Pilate leur avait dit, vous avez une garde, mettez-la vous-même. Ils ont mis leur garde. Puis leurs gardes sont venus leur dire que la pierre était roulée, puis quand la pierre était roulée, que le corps n'était plus là, qu'il était ressuscité. Puis eux, vous savez, eux, ils ont dit aux gardes de conter un mensonge, de dire que pendant qu'ils dormaient dans la nuit, les disciples sont venus voler le corps du Seigneur Jésus. Vous savez, un mensonge, celui qui compte le mensonge a l'assurance que c'est un mensonge. Donc, on voit vraiment comment il ne voulait pas voir la vérité, qu'il ne voulait pas. Le Seigneur, encore là, dans sa grâce, encore, il leur a donné un miracle. C'est le miracle de la résurrection, de sa mort, de son ensevelissement et de sa résurrection. Puis ça, il leur a donné aussi ce miracle-là, quand ils ont demandé un miracle. Après ça, dans les versets 43 à 45, le Seigneur, il guérit quelqu'un d'un esprit impur. Puis, il leur dit, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, et donc il leur raconte encore cette chose-là, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par les lieux arides cherchant du repos, il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti, et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée, il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui, ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Donc ici, ce que le Seigneur il dit, donc il leur parle d'un esprit impur qui est sorti d'un homme, puis il leur dit, c'est ça votre condition. Là, j'étais venu pour vous délivrer d'un esprit impur, mais vous êtes la maison était balayée, ornée, puis là, vous n'avez pas voulu recevoir 7 autres esprits pires que lui viennent. Puis là, la condition de cet homme est pire que la première. Puis là, il dit, c'est comme ça, cette génération-là, là, c'est ce qui vous arrive. Puis on va voir, à un moment donné, on va regarder le mystère de l'aveuglement d'Israël. Ça fait 2000 ans. Ils ont endurci leur cœur, ils ont fermé leurs oreilles. Là, ils sont dans une condition encore pire pendant 2000 ans. Ils sont dans l'aveuglement comme un jugement donné par Dieu. Puis un jour, à la fin, le Seigneur va parler à leur cœur, mais présentement, la nation est sous un aveuglement à cause du fait, devant toutes ces évidences-là, qu'ils ont refusé vraiment, ils ont refusé le Seigneur Jésus comme étant celui qui venait, le Messie qui leur avait été promis. Puis ensuite de ça, à la fin du chapitre 12, le Seigneur, il leur parle de quoi? Il y en a qui sont venus, verset 46, il dit, comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici sa mère et ses frères qui étaient dehors, cherchant à lui parler. Quelqu'un lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors et ils cherchent à te parler. Mais Jésus répondit à celui qui lui disait, qui est ma mère et qui sont mes frères? Donc les frères, le peuple juif, c'était ses frères, puis c'était sa famille. Mais là, il démontre. Là, il démontre que la relation de chair n'est plus importante. Il dit maintenant, puis étendant la main sur ses disciples, il dit, voici ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. Et vous, là, il démontre que la relation maintenant, c'est envers ceux-là qui vont faire sa volonté. Puis c'est pas le peuple juif. C'est pas sa famille. Lui était né dans le peuple juif. Mais il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole qui est le Seigneur Jésus, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc c'est pour ça que maintenant, on voit qu'on arrive à son climat, le summum de cet évangile-là, puis le rejet, là maintenant. Le Seigneur, dans le chapitre 13, comme on a dit, c'était un pivot. Maintenant, il va leur révéler la forme intérim du royaume à cause le royaume est reporté à plus tard. Puis là, il révèle vraiment l'intervalle qu'il était dans la pensée de Dieu avant même la fondation du monde. Mais là, il donne dans ces paraboles-là, il révèle des choses qui étaient cachées depuis la fondation du monde. Puis il va dire quoi? Dans cette parabole, il va démontrer comment l'œuvre de Dieu va s'accomplir sur la terre jusqu'à son retour quand il va revenir la prochaine fois. Donc, on a ici dans ces paraboles-là, ça va jusqu'à la fin de la grande tribulation. Premièrement, on a le semeur et les terrains, c'est la première. Puis, quand on a des groupes de sept de même, là, on a trois, c'est quatre et trois. Donc, on voit que la première des paraboles, c'est le semeur et les terrains. Donc, le Seigneur est venu donner une semence et il y a quatre différents terrains qui reçoivent la semence. La semence est la même, la semence est bonne, mais ça dépend maintenant, la responsabilité en vient au terrain. La même semence ne portera pas le même fruit parce que elle dépend du terrain, puis ces terrains-là, c'est la responsabilité de l'homme. La semence est la même et la bonne, mais le terrain fait la différence, puis c'est la façon qu'on reçoit la parole de Dieu. Les trois prochaines paraboles, il va nous montrer l'adversité que rencontre la parole. L'œuvre que le Seigneur est venu, le semeur qui est venu semer la parole, on va voir que c'est comme la résistance, c'est comme l'entrave, c'est comme l'effort de l'ennemi pour empêcher cette semence-là de porter du fruit. Puis là, il y a l'ivraie, puis il y a le grain de s'énever, puis il y a le levain qu'on va regarder un après l'autre. Mais les trois dernières paraboles nous démontrent qu'en dépit de cette adversité-là, l'adversité que rencontre la semence, que le Seigneur est venu semer, c'est un travail de l'ennemi, en dépit de cette adversité-là, le Seigneur va quand même arriver à son but. Puis ça, c'est dans les trois prochaines paraboles. On voit ici qu'il y a le trésor caché, la perle de grand prix et le filet. Ça, c'est le résultat. En dépit de l'adversité, le Seigneur quand même arrive à ses fins. Donc, les quatre premières paraboles sont données sur le bord de la mer. Même quand on arrive au verset 1, là, quand on voit que, comme on a dit, c'est un pivot maintenant, le Seigneur se tourne vers les nations. Il dit, ce même jour, Jésus sortit de la maison. Quand on parle de la maison, bien, ça nous parle ou de la terre. Quand on parle de la maison ou de la terre, bien, ça nous parle d'Israël. Et il dit, et il s'assit au bord de la mer. Quand on parle de la mer, c'est les nations. Dans la parole de Dieu, c'est des choses qu'on voit. Ces choses-là sont consistantes dans la parole de Dieu. Quand on parle des nations, on parle de la mer. Puis les nations agitées, comme l'écume de la mer, les vagues qui sont jamais en repos. Mais il dit, il s'assit au bord de la mer, une grande foule s'est assemblée auprès de lui, il monta dans une barque, puis il leur parle. Mais dans le verset 1, il sort de la maison. Israël, il s'assit sur le bord de la mer, les nations. Puis il explique, après, il va expliquer en particulier aux disciples, il va expliquer ces paraboles-là. Les trois dernières sont données en privé dans la maison. Maintenant, après ça, il rentre dans la maison puis il donne l'explication, les trois dernières dans la maison. Les quatre paraboles publiques ont rapport à la semence et où le produit qui est attaqué par l'ennemi. Le résultat de cette semence-là est attaqué. L'ennemi va empêcher le résultat de cette semence-là. Mais le roi étant absent, il est quand même au contrôle parce qu'il est au ciel. Puis c'est lui qui dirige du ciel. Le premier groupe décrit comment Satan va travailler à essayer de détruire l'œuvre de Dieu. Ça, c'est important qu'on comprenne ça parce qu'il y a des gens qui vont nous dire que comme le grain de sénévé, ben, c'est l'influence, ça devient grand, puis on peut se réfugier. Mais ce n'est pas des choses qui sont bonnes. L'ivraie, ce n'est pas bon. Le levain, ce n'est pas bon. On nous dit que des fois, il y a des gens qui nous disent que le levain, c'est l'influence du christianisme qui va christianiser le monde. Puis, non, c'est la parole de Dieu est consistante. Toujours le levain représente le mal qui s'infiltre. On va voir ça en avançant. Donc, le premier groupe décrit comment Satan va travailler à essayer de détruire l'œuvre de Dieu. Le deuxième groupe de paraboles données dans la maison révèle comment le conseil de Dieu va prévaloir. Ultimement, à la fin, Dieu va avoir le résultat de son œuvre. Le Seigneur n'est pas venu ici mourir sur la croix, prendre nos péchés pour que personne soit sauvé. Il verra le travail de son âme et il sera satisfait. Le Seigneur Jésus va avoir la satisfaction de cette œuvre terrible qu'il a accomplie. Sa sueur est devenue comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Le Seigneur a souffert grandement, mais il sait, il va voir le travail, il va voir le résultat de son œuvre, puis le Seigneur va être satisfait. Donc, Dieu va prévaloir ultimement, puis mais il semble que quand on parle du royaume de Dieu, c'est plus exclusif que le royaume des cieux, là, parce que le Seigneur avait dit à Nicodème, si un homme naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Mais le royaume des cieux semblerait impliquer plus que les vrais croyants. C'est un peu comme les professants, ceux qui disent faire partie du royaume de Dieu, ceux qui disent dans le christianisme, professent être des chrétiens. Donc, si on vient à la première parabole, le semeur et les terrains, ben, on voit que le royaume va se développer par une semence qui vise des individus, parce que là, c'est des terrains. Les semences sont jetées, la même semence, quand le semeur sème, la semence tombe dans différents endroits. Hein? Comme on parle du bord du chemin, cette semence-là tombe là. Puis les oiseaux viennent, puis ils mangent la semence. Le terrain dur, il est pas, c'est un terrain qui est foulé aux pieds. Puis c'est comme les cœurs des gens, des fois, sont comme ça, sont durs. Puis la semence vient sur leur cœur, mais les oiseaux, dans la parole de Dieu, c'est toujours une mauvaise représentation. Ça représente Satan qui vient enlever cette semence-là. Puis les gens, parce que leur cœur est tellement dur, ne reçoivent pas la semence. Mais la progression est en rapport avec la réception de cette semence de quatre façons différentes. Puis, cette semence n'est pas envers le peuple juif. Cette semence-là est envers des individus, soit juifs, soit grecs, peu importe, mais c'est des individus, c'est plus un peuple, c'est des individus qui reçoivent cette semence-là. Les oiseaux qui viennent enlever la semence, ben, c'est Satan. Satan qui vient enlever, le Seigneur le dit, quand il explique, c'est Satan qui vient enlever les choses qui ont été semés dans leur cœur. Les endroits pierreux, c'est quoi? Ben, c'est la chair. Parce qu'il vient de tribulation, on se détourne. Parce que la chair, elle n'aime pas les tribulations, elle n'aime pas d'être moquée, elle n'aime pas de subir des persécutions à cause de la parole. Donc, on est mieux satisfaire la chair. Puis, il n'y a pas de racine. Le soleil vient, fait chasser cette plante-là qui a produit des gens, des fois, qui sont vraiment intéressés par la parole. Puis c'est comme s'ils portent du fruit tout de suite, mais aussitôt que vient une tribulation, puis on voit ça, hein, des gens qui ont l'air vraiment partis, Puis là, il arrive une tribulation à cause de la parole, puis c'est fini. Ils s'en vont. Ça, c'est la chair. Les épines, c'est quoi? Ben, les épines, c'est les soucis du siècle. Hein. Ils pensent à ce qu'ils vont perdre au point de vue de quoi que ce soit, une relation, une position à cause de la parole, parce que c'est certain que si on reçoit l'Évangile, ça va changer les choses dans nos vies. Parce qu'il y a des choses, mais les soucis du siècle vont étouffer cette parole-là. Ça, c'est le monde. Donc, ici, on a Satan, la chair et le monde. C'est des choses que l'ennemi utilise pour empêcher, entraver le résultat de cette semence-là qui était mise dans des individus et pas le peuple. Donc, on a les oiseaux, c'est Satan, les endroits pierreux, c'est la chair, puis les épines, c'est le monde. Donc, c'est nos ennemis, ça, hein? Le monde, la chair, Satan, la chair et le monde. Mais on sait qu'il y a un bon terrain, un terrain qui est propre à recevoir la semence, et il reçoit cette semence-là, il dit un grain porte 100, 60 et 30. Donc, c'est pas que ça rapporte à différents niveaux, mais il y a du fruit. Puis c'est ça qui est important. Il y a du fruit. Une autre partie tombait dans la bonne terre, elle donnait du fruit. Un grain 100, un autre 60, un autre 30. Pas obligé de tout être 100%, mais au moins, il y a une réponse. La semence a été reçue, puis elle a apporté du fruit pour le Seigneur. Les trois prochaines paraboles, les autres, ils parlent des obstacles de Satan. On a l'ivraie et le bon grain. Hein? Le semeur a semé une bonne semence dans son champ, mais pendant que les gens dormaient, eh bien, un ennemi est venu et a semé de l'ivraie dans le champ. Puis on s'en rend pas compte tout de suite. Des fois, il y a des gens qui disent que l'ivraie, ça ressemble tellement au blé. Mais c'est pas parce qu'il nous dit que quand l'ivraie a poussé aussi, les serviteurs ont dit, comment ça se fait qu'il y a de l'ivraie dans le champ? Tu as semé une bonne semence. Donc, ils reconnaissent l'ivraie. Puis c'est sûr que l'ivraie ne porte pas de fruits. Puis quand un épi porte du fruit, comme l'orge, quand elle porte du fruit, la pesanteur du fruit fait courber la tête. Tandis que l'ivraie porte pas de fruits, puis il y a pas c'est un coup raide. Mais c'est quoi la tactique de Satan, c'est quoi? C'est de mélanger le faux et le vrai. Puis ça, on le voit tellement là. Le Seigneur est venu apporter une semence de vie dans le monde. Satan, regardons toutes les religions de Satan, là. Toutes les religions des hommes, les religions de Satan. C'est pourquoi, qu'est-ce que les gens disent? Ah, ils disent, il y a tellement de religions dans le monde, donc c'est quelqu'un c'est de la confusion. Puis Harry Ironside, il prêchait l'Évangile à un moment donné, puis il y a un gars sur la rue, puis il y a un gars qui passait, puis il dit, ah, oh, il dit, moi, il y a tellement de religions dans le monde, là. Il dit, quelle qui est la bonne? Puis Harry Ironside, il dit, moi, j'en connais juste deux. Donc, ben, juste deux religions. Ah oui, il dit, la religion, c'est l'homme qui essaie de se sauver par ses propres œuvres, puis l'autre, c'est Dieu qui a pourvu un sauveur. Il y en a juste deux. Les autres sont tous pareils. C'est tout le temps la même affaire. L'homme qui essaie de se sauver lui-même, tandis que la vraie, c'est Dieu qui a envoyé un sauveur. Donc, mais c'est sûr que ce mélange-là, ça, des gens qui professent connaître le Seigneur Jésus, puis on le voit tellement dans notre génération qu'on vit aujourd'hui, combien de gens se sont détournés de l'Évangile à cause de la religion, à cause des abus de la religion. C'est des gens qui n'étaient pas sauvés, des chefs religieux. Le Seigneur les a dénoncés quand il était sur la terre, mais le Seigneur l'a dit que c'était des aveugles qui conduisaient des aveugles. Puis, il y a tellement de gens qui se sont détournés de Dieu à cause de cet ivraie-là. Mais les disciples, eux, ils ont dit, OK, on va aller arracher l'ivraie. Le Seigneur a dit non. Laisser croître ensemble jusqu'à la fin. Pourquoi que le Seigneur voulait pas qu'il arrache l'ivraie? Parce qu'en arrachant l'ivraie, ben, il aurait déraciné aussi le bon grain. Puis le Seigneur a dit, laissez-les croître ensemble. À la fin, les moissonneurs, ils vont faire la différence. Les moissonneurs vont tout ramasser, puis enlever l'ivraie, garder le bon grain. Donc, ça, c'est un entrave de l'ennemi qui vient déranger le bon grain pour empêcher l'œuvre que l'œuvre de Dieu se fasse. Mais en dépit de tout ça, là, en dépit de toute cette confusion-là, en dépit de toute cette entrave-là de l'ennemi, la confusion des religions, il reste quand même qu'il y a des gens qui vont suivre la parole de Dieu. Il y a des gens qui vont recevoir cette semence-là, qui vont porter du fruit. Puis le Seigneur va arriver à la fin. C'est ce qu'on dit, quand le Seigneur va venir chercher l'Église, là, il va avoir une Église à enlever. Il va avoir encore des croyants. Puis on sait que Élie, il se pensait tout seul à un moment donné. Hein? Puis il a dit, Seigneur, ils ont tué tes prophètes, puis moi, je suis resté seul. Puis le Seigneur, il a repris, il a dit, non, il y a 7 000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Fait qu'il a repris Élie. Il a dit, Élie, peut-être toi, tu ne les vois pas, mais moi, je les vois. Il y en a 7 000 hommes qui n'ont pas fléchi. Puis il y a toujours eu, dans le peuple d'Israël, il y a toujours eu un reste fidèle. Puis encore aujourd'hui, même dans l'Église, il y a eu bien des divergences, il y a eu bien des problèmes, il y a eu bien des égarements, puis encore aujourd'hui, beaucoup s'égarent, mais il reste qu'il y a des gens, peut-être pas la grande majorité, mais il y a un reste fidèle qui reste en contact avec Dieu. Quand le Seigneur Jésus est venu sur la terre, il y avait un reste fidèle. On pense à Siméon, on pense à Anne, la prophétesse, on pense à Marie, à Joseph, on pense à Jean le Baptiste. Il y avait un peuple sur la terre qui attendait son Messie. Puis dans l'histoire de l'Église, même s'il y a eu des grandes erreurs qui se sont infiltrées, tout ça, il y a resté toujours des gens qui étaient fidèles à la parole de Dieu, à la simplicité de la parole. Ça, c'est vraiment merveilleux. Ensuite, on arrive à la troisième parabole qui est le grain de sénevé. Ce grain de sénevé, Seigneur, c'est la plus petite des semences, mais quand elle a poussé, devient un grand arbre. Donc, le grain de sénevé, c'est un petit organisme. C'est quelque chose, quand on pense à un grain, hein, ça a l'air de rien, mais quand on met ça dans la terre, la vie est là-dedans. Il y a la vie là-dedans, puis ça pousse. Mais il dit, mais c'est un petit organisme qui a poussé, puis là, il est devenu quelque chose de grand. Mais c'est pas une bonne chose. Quand ça devient grand, on voit que tout l'organisme qui est l'Évangile, l'Église, qui est un organisme vivant, elle va continuer. Mais quand elle commence à être une grosse structure des hommes, puis on le voit toujours dans des ministères qui ont été comme même la maison les maisons d'orphelins à Bristol de Georges Muller. À un moment donné, ça a devenu une organisation, puis c'est des gens qui viennent à gérer ces choses-là, qui ne sont pas sauvés, puis ça se perd. Mais quand ça grandit, là, ça devient une imitation de ce qui est vrai. Donc, c'est une monstruosité, c'est une croissance exagérée qui va empêcher, qui va entraver, qui va tomber entre les mains des hommes. Puis, regarde, c'est comme la Grande Babylone. La Grande Babylone, c'est quoi? Ben, c'est une grande Babylone, mais c'est un peu ce qui est. Elle a imité la chrétienté. Puis, ça, c'est toutes les religions de Satan. C'est une imitation de la vraie Église. Dans Apocalypse 18:2, il dit, Babylone, la grande ville, est devenue une habitation de démons, un repaire de tout esprit impur, un repaire de tout oiseau impur et odieux. Hein, il dit, ça devient un grand arbre dans lequel les oiseaux viennent nicher. Donc, ils viennent. Puis les oiseaux, ce n'est pas une bonne chose ici, là. Comme il dit dans Apocalypse, c'est les esprits impurs, un repaire de tout oiseau impur et odieux qui vient s'abriter. Puis le christianisme est devenu un peu ça aujourd'hui. Il est devenu une organisation, une grosse organisation humaine dans beaucoup d'endroits qui les oiseaux du ciel viennent s'y nicher. Donc, il y a toutes sortes d'affaires. Il y a des fausses doctrines. Il y a des choses, des doctrines de démons, comme le Seigneur avait dit. Mais l'humilité, là, c'est ce qui garde la position. De jamais, vous savez, on vient, quand on vient grand, là, on vient, on pense qu'on se suffit à soi-même. On manque l'humilité. C'est là que les problèmes commencent. Donc, l'Église, elle s'est toujours renforcée dans l'adversité, mais quand elle devient puissante, c'est là qu'elle se corrompt. On voit dans les églises de l'Apocalypse, dans l'Apocalypse 2-3, l'église de Philadelphie, c'est une église qui n'a pas de reproche. L'église de Smyrne n'a pas de reproche, mais c'est des églises. Les deux églises, c'est des églises qui étaient dans la faiblesse. Le Seigneur dit à Philadelphie, parce que tu as peu de puissance. mais tu as gardé mon nom. Gardé ma parole, tu as gardé mon nom. Ils n'ont pas été populaires. L'Église de Laodicée a dit, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et parce que tu sais pas que tu es pauvre, misérable, aveugle et nu. Donc, le Seigneur met des reproches à cette grande Église-là qui semble, à toute vue humaine, un grand succès, mais ils sont aveugles, ils savent même pas qu'ils sont pauvres, aveugles, misérables et nus. Puis le Seigneur leur fait des reproches. Puis même dans cette église-là, le Seigneur est dehors. Il frappe à la porte des individus. Il est rendu dehors. Puis il faut faire attention que dans nos églises, que le Seigneur soit pas dehors, mais qu'il soit à la tête, que c'est lui qu'on dirige, c'est lui qu'on. Je passais à un moment donné à un endroit, puis ça disait sur le billboard dehors, là où Christ est Seigneur. Je me suis dit, waouh, c'est quelque chose de dire ça, là. Si on dit ça, est-ce que c'est vrai? Le Seigneur a dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Donc, c'est quand même lourd de porter de dire que le Seigneur est le Seigneur. Faut que ça se transmette. Il faut que ça se démontre par l'obéissance. C'est ça qui est important. On voit que quand Saül, le Seigneur lui a dit à Saül, Samuel, il a dit, quand tu étais petit à tes yeux, tu as fait des grandes choses. Mais quand tu s'es élevé, il s'est détruit. Puis David est resté fidèle dans les temps difficiles. Mais quand ça n'a pas été difficile, c'est là que David a tombé. Salomon s'est égaré dans la prospérité. Hein? C'est là que Salomon s'est détourné de Dieu dans la prospérité. Pour ça, des fois, nous autres, on chante, hein? Je veux te rendre grâce pour toutes les épreuves. Elles purifient ma foi et me façonnent à toi. Faut pas se décourager dans l'épreuve. Faut remercier le Seigneur. Paul, qui a eu des grandes visions, il lui a été donné une écharpe dans la chair. Pourquoi? Afin qu'il ne s'enorgueillisse pas, qu'il reste dans l'humilité. Puis merci Seigneur qui nous donne des épreuves. Merci Seigneur qui nous donne des tribulations. Merci Seigneur qui nous amène pour nous garder toujours dans l'humilité. Parce que quand on pense qu'on est arrivé là, c'est là qu'on va tomber sur notre face. Puis dans Luc 16, au verset 15, il dit, car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Ce qui est élevé parmi les hommes. Puis pourtant, on se fait tromper. Hein? On est ébloui par ce qui est élevé. Mais Seigneur, ce qui est élevé aux yeux des hommes est une abomination devant Dieu. Seigneur aime même quand on est dans la faiblesse, la fidélité. Parce que tu n'as pas renié mon nom. Tu as gardé ma parole. Je vais te délivrer à l'heure de la tribulation qui vient sur le monde. Fait que je m'arrête là. On est rendu à moins 5. Fait que je vous donne la possibilité de reprendre votre micro. Puis, si vous avez des commentaires ou des questions, on va passer un temps pour regarder à ces choses-là.
J'aurais deux questions, puis une réflexion. On a parlé de Jean-Baptiste tantôt, qui disait, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Puis à un moment donné, le Seigneur il dit, heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Probablement qu'il fait allusion aux disciples de Jean-Baptiste. Est-ce qu'il peut faire aussi allusion à Jean-Baptiste lui-même?
Oui, parce que il dit, celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Parce que là, Jean-Baptiste, il voyait que lui, il avait prêché le royaume. Puis là, le royaume ne venait pas, lui était en prison. Puis c'est pour ça que le Seigneur, il faisait son œuvre selon la parole de Dieu. Fait que si Jean-Baptiste manquait de reconnaître que lui, Jean-Baptiste, il s'attendait qu'il allait prendre le trône, puis qu'il allait être délivré. Mais Seigneur, il voulait dire, regarde, moi je fais l'œuvre de Dieu selon ce que Dieu m'a dit de faire. Il ne faut pas que je sois une occasion de chute. Continue d'avoir la foi. Puis le Seigneur a donné à Jean-Baptiste les évidences, là. Puis il a dit, allez rapporter à Jean pour le consoler. Son esprit était troublé. Puis Seigneur, il veut dire, là, perds pas confiance. Il ne faut pas que je sois une occasion de chute. Moi, j'accomplis ce que je dois accomplir. Ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Donc, Jean, sois patient. L'œuvre de Dieu s'accomplit. Attends. Puis ça, on est porté quand on voit, nous autres, on est porté à se désespérer quand on ne voit pas les choses arriver. Mais il faut attendre. Le Seigneur, dans son temps, va accomplir ce qu'il a dit.
Merci. La deuxième remarque, ça concerne l'ivraie et le bon grain. Quand je lis ça, je me demande si je fais la bonne interprétation pour moi-même, mais on est entouré de gens qu'on aime puis qui connaissent pas le Seigneur. Et puis si le Seigneur venait à enlever l'ivraie, on serait déchiré nous-mêmes. Alors je remercie Dieu des gens qui m'entourent, même s'ils connaissent pas le Seigneur, parce que j'en suis béni. C'est une bénédiction pour moi.
Oui, mais quand tu parles de livret, c'est surtout c'est une imitation, non? C'est ceux qui vont professer d'être sauvés, mais qui ont seulement une profession. Ils n'ont pas la possession. Donc, ils sont juste, ils professent de connaître Dieu, mais ils n'ont pas le fruit en eux qui démontre la réalité de l'Évangile. Parce que c'est impossible pour quelqu'un qui n'est pas sauvé de produire le fruit. Le Seigneur dit, un bon arbre ne peut porter du mauvais fruit, puis un mauvais arbre ne peut pas porter du bon fruit. C'est l'évidence. Mais ceux qui professent d'être des chrétiens, puis qui n'ont pas le fruit pour démontrer qu'ils sont vraiment nés de nouveau, ben, c'est un entrave. Les gens ils regardent à eux, puis ils disent, regarde, c'est ça des chrétiens. Fait qu'ils ne voient pas la puissance de l'Évangile. Paul pouvait dire, j'ai pas honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Mais Paul démontrait dans sa vie la puissance de l'Évangile parce que lui était auparavant un blasphémateur puis un meurtrier, mais Dieu lui avait fait grâce puis il a changé complètement. L'ivresse, c'est l'imitation qui vient entraver l'œuvre de Dieu.
Okay. Dans les quatre semences, est-ce qu'on peut dire que la quatrième, c'est ceux qui vont être enlevés? C'est seulement ceux-là qui vont être enlevés lors du retour du Seigneur. Est-ce qu'on peut dire ça?
Ouais, mais ce n'est pas quatre semences, c'est une semence, c'est
Une
quatre terrains.
seule, oui, merci.
C'est
Oui.
les terrains. Ouais, c'est les terrains, c'est
Oui.
la réponse que nous on fait à la semence. La semence est la même. Sur
Oui.
les quatre terrains, c'est la même semence, c'est une bonne semence qui peut porter du fruit, mais c'est le terrain qui ne reçoit pas cette semence-là. Et ça, c'est ceux-là qui sont sauvés, c'est ceux qui reçoivent puis qui portent du fruit.
Merci, Gérald.
Ah, Steve, faut-tu mettre ton micro? Tu es en sourdine. T'es pas capable? Attends un petit peu, je vais essayer de te le mettre là. Attends un petit peu. Essaye là, là.
Oui,
Ah,
pas.
c'est bon,
C'est
t'as
bon?
réussi.
Oui. Moi, ma question, c'est un peu dans le même sens que M. Gendron. On sait que dans la sagesse infinie du Seigneur, c'est qu'il laisse l'ivraie et le blé ensemble. Peut-être pour que le croyant soit fortifié, soit mis à l'épreuve. Mais le fait qu'il ne veuille pas arracher l'ivraie, j'ai tendance à penser, est-ce que c'est parce que soit que la foi du croyant n'est pas assez démonstrative. Est-ce que c'est parce qu'il est comme encore tiède, pas assez chaud pour que ce soit évident? Le fait que l'ivraie n'est pas enlevé?
Parce que l'ivraie, elle a ses racines entremêlées avec les racines du blé. Puis qu'est-ce qui arrive si on arrache l'ivraie, on va déraciner le blé. C'est sûr que pour nous autres, des fois, on peut penser qu'il y a des gens qui sont sauvés, même des gens qu'on aime qui sont sauvés. Puis s'ils seraient arrachés, ça nous ébranlerait. C'est que le Seigneur, il dit, laissez pousser les deux ensemble, puis à la fin, on va discerner. Parce que c'est pour ça que nous, on ne peut pas voir. C'est pour ça que Jacques, il dit, montre-moi ta foi sans les œuvres, puis moi je vais te montrer ma foi par mes œuvres. Fait que si quelqu'un, nous autres, on ne peut pas voir la foi dans le cœur de quelqu'un, mais on peut voir le produit de la foi, on peut voir l'œuvre que ça produit. Mais c'est certain, des fois, il y a des chrétiens qui ne portent pas nécessairement le fruit qu'ils devraient porter. Ils ont la possibilité, mais ils ne le portent pas. Puis c'est sûr que nous autres, on ne peut pas démêler ça, là. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Des fois, c'est tellement proche, là, ça vient ensemble que si tu vas dans un champ et tu commences à déraciner toute l'ivraie, ben, tu vas tout déraciner le champ. Fait que le Seigneur, il dit, laissez-les croître ensemble, puis à la fin, les moissonneurs vont s'occuper de ça.
OK, parce que là, c'est comme s'il me vient en tête. Est-ce que les vrais, ou on pourrait dire un faux croyant, avec le temps deviennent un vrai croyant? Est-ce qu'on peut penser ça?
Là, c'est ça, là, il nous parle des faux puis du vrai, là. C'est une parabole qui nous explique une situation. Il ne faut pas extrapoler au-delà de la parabole. C'est sûr que quelqu'un qui pense être sauvé, ça arrive à un moment donné qu'il comprend, puis là, il est vraiment sauvé. Mais dans la parabole ici, c'est pour démontrer qu'il y a une différence entre le faux, le vrai et le faux, là.
Merci, Gérald.
C'est ça, tu sais, mais quelqu'un, à un moment donné, s'est pensé. On chante un cantique, là, un chrétien, je croyais être, mais j'ignorais le bonheur. Tu sais. On pensait qu'on était chrétien, mais on ne l'était pas. Puis ça peut arriver que quelqu'un, à un moment donné, se réveille, comprenne l'Évangile. Mais là, le Seigneur parle du faux puis du vrai, là, qui sont mêlés ensemble. C'est une entrave que l'ennemi apporte pour l'Évangile.
Merci.
Peux-tu dire qu'il peut y avoir de l'ivraie dans l'église locale?
Ah ben oui, oui, ça, dans un sens, quand on baptise quelqu'un, on le baptise sur ta
Oui.
profession de foi. Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est certain que on voit des fois, il y a des gens qui. C'est difficile pour nous de discerner ce qui est un apostat puis ce qui est un rétrograde. Parce qu'ils peuvent se ressembler beaucoup, l'apostat puis le rétrograde. C'est pour ça que c'est difficile pour nous autres de discerner là, entre les deux. Quand on a Pierre puis Judas, Pierre, il a renié le Seigneur. Puis, des fois, il y a des gens qui vont me demander, on me dit, un tel, penses-tu qu'il est sauvé? Ben, je dis, si tu me l'avais demandé il y a 10 ans, je n'aurais pas hésité à te dire qu'il était sauvé. Si tu me le demandais maintenant, je n'hésiterais pas à te dire qu'il n'est pas sauvé. Fait qu'il faut faire attention, des fois, parce que ça peut arriver, puis on a les preuves de ça. Il y a des gens qui ont été éloignés du Seigneur, étaient des rétrogrades pendant des années. Puis des longues années. Puis à un moment donné, ils sont revenus au Seigneur. Mais c'est pour ça qu'il faut faire attention à qui est un rétrograde, qui est un apostat.
Merci.
Mais c'est sûr que ça peut arriver que parmi nous, il y a des gens, ils étaient des nôtres, mais ils sont pas, ils étaient avec nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Parce qu'ils avaient été des nôtres, ils auraient resté.
Oui.
Les hommes est arrivé à 8 h 04, c'est qu'on va peut-être avoir un mot de prière pour terminer. Ceux qui doivent partir pourront partir. Puis si vous voulez continuer, comme on dit toujours, on pourra en jaser encore après. Seigneur notre Dieu, on te remercie pour ta parole. On sait, Seigneur, que ces choses-là nous ont été données pour nous faire comprendre des choses grandes et merveilleuses. Donne-nous, Seigneur, l'intelligence spirituelle pour qu'on puisse recevoir ta parole et qu'on puisse vraiment, Seigneur, savoir que ta parole est la vérité. Merci encore une fois, Seigneur. Merci parce que, en dépit de tout ce que l'ennemi a essayé d'entraver, eh bien, toi, tu vas réussir, Seigneur, à avoir le fruit de ton travail, puis tu vas être satisfait. On te remercie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.